Cette riposte amena un sourire sur quelques visages. Le grand Philippe se trouvait cloué. Après tout, il n'avait pas tort, le petit évêque anglais. La fumeuse coutume invoquée à la succession de Louis X était muette là-dessus. Et en bonne logique, puisque trois frères à la suite avaient régné sans produire de garçon, le pouvoir ne devait-il pas revenir au fils de la sœur survivante, plutôt qu'à un cousin ? Le comte de Hainaut, tout acquis à Valois jusque-là, réfléchissait, voyant se dessiner soudain pour sa fille un avenir inattendu. Le vieux connétable gaucher, les paupières plissées comme celles d'une tortue, et la main encornée autour de l'oreille, demandait à son voisin Mils de Noyer
« Quoi ? Mais que dit-on ?»
Le tour trop compliqué du débat l'irritait. Sur la question de la succession des femmes, il avait son opinion, invariable depuis 12 ans. La loi des mâles, en vérité, c'était lui qui l'avait proclamée, en ralliant les pères autour de sa formule fameuse « Les lys ne filent pas la laine, et France est trop noble royaume pour être à femelle remis. » Orleton poursuivait, cherchant à se rendre émouvant. Il invitait les pères à considérer une occasion que les siècles peut-être n'offriraient plus jamais d'unir les deux royaumes sous le même sceptre. Car là était sa pensée profonde. Finis les litiges incessants, les hommages mal définis et les guerres d'Aquitaine dont pâtissaient les deux nations, résolue l'inutile rivalité de commerce que créaient les problèmes de Flandre. Un seul et même peuple, des deux côtés de la mer. La noblesse anglaise n'était-elle pas tout entière de souche française ? La langue française n'était-elle pas commune aux deux cours ? De nombreux seigneurs français n'avaient-ils pas, par jeu d'héritage, des biens en Angleterre, comme les barons anglais avaient des établissements en France ? Eh bien, soit, remettez-nous l'Angleterre ! Nous ne la refusons pas, ironisa Philippe de Valois. Le connétable gaucher écoutait les explications que Mils de Noyer lui soufflait à l'oreille, et soudain son teint fonça. Comment ? Le roi d'Angleterre réclamait la régence et la couronne à suivre. Alors tant de campagnes qu'il avait conduites, lui gaucher, sous le dur soleil de Gascogne, tant de chevauchées dans les bouts du Nord contre ces mauvais drapiers flamands, toujours soutenus par l'Angleterre, tant de bons chevaliers tués, tant de tailles et subsides dépensés, n'aurait donc servi qu'à cela ? On se moquait. Sans se lever, mais d'une profonde voix de vieillard, tout enroué par la colère, il s'écria
« Jamais France ne sera à l'Anglois !» Et cela n'est point question de mâle ou de femelle, mais de savoir si la couronne se transmet par le ventre. Mais la France ne sera pas à l'Anglois parce que les barons ne le supporteraient pas. Allons Bretagne, allons Blois, allons Nevers, allons Bourgogne, vous acceptez d'entendre cela ? Nous avons un roi à portée en terre, le 6e de ceux que j'aurais vu passer de mon vivant, et qui tous ont dû lever leur hoste contre l'Angleterre ou ceux qu'elle appuie. Qui doit commander à la France doit être du sang de France. Et qu'on en finisse d'écouter ces sornettes qui feraient rire mon cheval !»
Il avait appelé Bretagne, Blois, Bourgogne, du ton qu'il prenait la guerre en bataille, pour rallier les chefs de bannière.
« Je donne mon conseil avec le droit du plus vieux, pour que le comte de Valois le plus proche du trône soit régent, gardien et gouverneur du royaume !»
Et il éleva la main pour appuyer son vote.
« Il a bien dit !»
s'empressa d'approuver Robert d'Artois en dressant sa large patte et en conviant du regard les partisans de Philippe à l'imiter. Il regrettait presque à présent d'avoir fait écarter le vieux connétable du testament royal.
« Il a bien dit !» répétèrent les ducs de Bourbon et de Bretagne,
le comte de Blois, le comte de Flandre, le comte d'Évreux, les évêques, les grands officiers, le comte de Hainaut. Mao d'Artois interrogea des yeux le duc de Bourgogne, vit qu'il allait lever la main et se hâta d'approuver pour n'être pas la dernière. Seule, la main d'Orleton resta baissée. Philippe de Valois, qui se sentait soudain épuisé, se disait « C'est chose faite, c'est chose faite ». Il entendit l'archevêque Guillaume de Trie, son ancien précepteur, dire
« Longue vie au régent du royaume de France, pour le bien du peuple et de la Sainte Église !»
Le chancelier Jean de Cherchemont avait préparé le document qui devait clore le conseil et entériner la décision. Il ne restait que le nom à inscrire. Le chancelier traça en grandes lettres celui du très puissant, très noble et très redouté seigneur Philippe, comte de Valois. Et puis donna lecture de cet acte qui non seulement attribuait la régence, mais encore désignait le régent, si l'enfant à naître était une fille, pour devenir roi de France. Tous les assistants apposèrent au bas du document leur signature et leurs sceaux privés. Tous, sauf le duc de Guyenne, c'est-à-dire son représentant, Monseigneur Adam Orleton, qui refusa en disant « On ne perd jamais rien à défendre son droit, même si l'on sait qu'il ne peut pas triompher. L'avenir est grand et dans les mains de Dieu. » Philippe de Valois s'était approché du catafalque et regardait le corps de son cousin. La couronne encadrant le front cireux, le long sceptre d'or posé le long du manteau, les bottes scintillantes. On crut qu'il priait, et ce geste lui valut le respect. Robert d'Artois vint auprès de lui et lui murmura « Si ton père te voit en ce moment, il doit être bien heureux, le cher homme. Encore 2 mois à attendre !»